Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le conclave s'est ouvert ce mardi 12 mars au Vatican, après la procession d'entrée en conclave et la prestation de serment la main sur l'évangile. Les 115 cardinaux électeurs se sont enfermés dans la chapelle Sixtine pour élire le 265e successeur de Pierre. Ce mardi matin, ils ont concélébré en la basilique Saint-Pierre la messe pro eligendo romano pontifice aux côtés des cardinaux non électeurs. Ce magazine sera entièrement consacré à cette journée pour vous permettre d'être au plus près de ces moments intenses que nous sommes en train de vivre à Rome. Retour sur la célébration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre, puis sur l'entrée en conclave dans la chapelle Sixtine, mais également témoignages et entretiens. Bienvenue dans ce magazine. Ce sont des journées historiques qui ont débuté au Vatican. Les 115 cardinaux électeurs sont entrés en conclave ce mardi. Après avoir pris possession dès 7h du matin de leur chambre dans la maison Sainte-Marthe, où ils vivront isolés du reste du monde jusqu'à l'élection du nouveau pape, tous ont rejoint la basilique Saint-Pierre pour la messe pro eligendo romano pontifice. Le collège cardinalis au complet, cardinaux électeurs et non électeurs, était entouré de nombreux évêques, prêtres, diacres religieux, mais aussi de fidèles, laïcs, désireux de s'associer à ce moment central dans la vie de l'Église. Cette messe solennelle et très recueillie dans une basilique comble était présidée par le cardinal Angelo Sodano. Dans son homélie, le doyen du Collège des cardinaux a rappelé l'importance de l'unité de l'Église et il a été longuement applaudi lorsqu'il a évoqué la figure de Benoît XVI. Anthony Torzek était sur place. Reportage.
Il est 10h ce matin dans la basilique Saint-Pierre lorsque les cardinaux entrent en procession. Parmi eux, sûrement, le futur souverain pontife. Les cardinaux se placent en arc de cercle autour du baldaquin et donc entourent le tombeau de Saint-Pierre. Sa succession est en marche. C'est le cardinal Angelo Sodano qui préside cette ultime messe avant l'ouverture officielle du conclave. Dans son homélie, le doyen du Collège des cardinaux rend hommage au pape émérite Benoît XVI. « Nous renouvelons notre gratitude », lance le cardinal Sodano, des remerciements suivis par de longs applaudissements des fidèles. Trois maîtres mots dans cette homélie du cardinal Sodano. L'amour, l'unité et la générosité. S'appuyant sur l'évangile du jour, il rappelle que la plus grande œuvre de charité est l'évangélisation. L'évangélisation est la promotion la plus élevée et la plus complète de la personne humaine. Deuxième message de cette homélie, la nécessaire unité de l'Église. Saint Paul nous enseigne que nous devons travailler tous ensemble pour construire l'unité de l'Église. Nous sommes appelés à coopérer avec le successeur de Saint Pierre, le fondement visible de cette unité de l'Église. La prière finale du cardinal Sodano dans cette homélie en dit long sur la responsabilité des cardinaux électeurs du conclave.
Mes frères, prions pour que le Seigneur nous accorde un pape qui exerce cette noble mission avec un cœur généreux.
La chorale de la chapelle Sixtine fait résonner cet appel. Dans quelques heures, dans quelques jours, cette prière aura porté ses fruits.
De nombreux fidèles se mêlaient ce mardi matin aux journalistes venus du monde entier, rassemblés place Saint-Pierre devant les écrans géants, pour suivre en direct cette messe qui précède l'ouverture du conclave. Quelques curieux ou touristes qui ont bravé la pluie, mais surtout des catholiques, religieux ou laïcs, qui souhaitaient être en communion dans la prière et vivre en quelque sorte ce moment d'histoire de l'Église. Des visages souriants, d'autres plus graves ou recueillis, parmi eux un prêtre français en formation à l'Institut biblique de Rome, le père Guillaume Le Floch. Il fait partie des plus chanceux qui ont trouvé place dans la basilique.
Je suis rentré dans l'église peu de temps avant que ça commence, une basilique comble avec un mélange de pèlerins et puis de touristes aussi, parce que voilà, on est un jour un peu ordinaire malgré tout à Rome. Et puis très vite, l'ambiance a complètement changé dans la basilique. C'est ça qui m'a beaucoup impressionné, parce qu'au début, il y avait un brouhaha. Et puis, dès qu'on a vu rentrer la procession avec les 115 cardinaux, avec le visage grave, hein, vraiment, on sentait une profondeur, un sérieux, un engagement de toutes leurs personnes dans cette journée, dans cette messe, que l'ambiance a profondément, oui, évolué. Et ensuite, on est vraiment rentré dans la prière, tout simplement. Moi, ce qui m'a touché, c'est le choix des lectures du jour, les choix des textes de la Bible qui étaient choisis. Le premier, c'est le texte par lequel Jésus commence son ministère, donc sa première parole publique dans l'évangile de Luc. Et le cardinal Sodano a dit, voilà, le travail du pape, c'est de ça, c'est de libérer, de promouvoir la justice, de promouvoir le développement. Et le plus haut point du développement, c'est l'annonce de l'évangile. Et puis ensuite, il y a la deuxième lecture qui a été choisie avec aux Éphésiens, avec ce passage que j'aime beaucoup, c'est que l'Église, c'est un corps, et ce qui est très important dans le corps, c'est les ligaments, les articulations, parce que c'est ça qui permet que ça puisse se coordonner, qu'on puisse avancer et qu'on ne soit pas rigide. Et dans l'Église, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait un travail d'articulation, de ligaments, qui puisse faire que l'Église avance paisiblement dans l'amour.
Il n'y a pas eu d'appel particulier du cardinal Sodano à avoir un pasteur particulier pour l'Église. Vous le regrettez ou pas ?
Non. En fait, ce qu'il a dit, c'est que le futur pape, il s'inscrira dans la continuité, hein, avec son charisme particulier, avec sa personnalité.
Le père Guillaume Le Floch, interrogé par Anthony Torzek. C'est ce mardi après-midi que s'est ouvert le conclave pour l'élection du nouveau pape. Les 115 cardinaux électeurs ont rejoint en procession la chapelle Sixtine. Dernières images des cardinaux avant une période d'isolement dans la prière. Des images retransmises en direct, suivies par des millions de fidèles dans le monde entier. Bernard de Cotigny.
Précédés par la croix, les cardinaux ont débuté leur procession de la chapelle Pauline, où l'on peut contempler un très beau tableau de la crucifixion de l'apôtre Pierre. Ils ont ensuite traversé la Sala Regia pour rejoindre la chapelle Sixtine au rythme de la litanie des saints chantée en latin. Une fois installés à la place qui leur a été attribuée dans la chapelle Sixtine, les cardinaux ont entonné le chant du Veni Creator, un chant dont le but est d'invoquer l'aide de l'Esprit Saint, moment d'intense émotion. Le président de l'Assemblée des électeurs, en l'absence du doyen et du vice-doyen du Sacré Collège, le cardinal Giovanni Battista Re, premier des cardinaux évêques, a ensuite lu à voix haute la formule du serment que tous doivent prêter et par lequel ils s'engagent à garder le secret total sur l'élection, à empêcher toute ingérence extérieure dans le processus et, s'ils sont élus, à exercer fidèlement la charge de pasteur de l'Église universelle, s'ils l'acceptent.
Nos omnes et singuli. In hac electione summi pontificis versantes cardinales electores.
Chaque cardinal, selon l'ordre de préséance, a ensuite prêté serment une main sur l'évangile. Le maître des célébrations liturgiques pontificales, Mgr Guido Marini, a ensuite prononcé alors la célèbre formule
Extra omnes.
Ceux qui ne participent pas au conclave ont alors quitté la chapelle Sixtine. Une fois la lourde porte de bois close, une méditation a été prêchée par le cardinal Prosper Gresch, théologien de 87 ans, expert en patristique. Puis il est sorti à son tour avec Mgr Marini, laissant les cardinaux seuls à l'heure du discernement.
cœur du palais apostolique, écrin de beauté épicentre de l'art catholique, la chapelle Sixtine a donc été une nouvelle fois ce mardi le témoin de l'entrée en conclave. Construite sur ordre du pape Sixte IV de 1477 à 1483, la Capella Magna a été consacrée comme lieu obligatoire des conclaves par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, édictée par Jean-Paul II en 1996. Des peintres de renom tels Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Luca Signorelli ont participé à sa décoration. Les fresques qui s'y déploient avec faste parcourent l'histoire du salut, depuis la création jusqu'au jugement dernier. Mais qui dit chapelle Sixtine dit bien sûr Michel-Ange. L'artiste florentin reste indissociable des œuvres maîtresses qu'il y a laissées, la voûte et la fresque dantesque du jugement dernier. C'est devant elle que les cardinaux doivent décider, en leur âme et conscience, du futur successeur de Pierre. Le message spirituel, on le devine, est fort. Nous en parlons avec Colin Lemoine, historien de l'art et auteur de Michel-Ange aux éditions Fayard.
Oui, le jugement dernier, on sait que il a fallu à Michel-Ange s'y reprendre à plusieurs reprises. Ça a été assez long. Il a fallu donc une commande passée par Clément VII, reprise et confirmée par Paul III, alors que Michel-Ange venait d'être confirmé dans ses fonctions de peintre, sculpteur et architecte de la papauté. Et donc le jugement, il lui a fallu y revenir assez souvent, ce qui est une fresque tout à fait monumentale, une des plus grandes fresques de l'histoire de l'art occidental. On sait que Michel-Ange avait 65 ans passé lorsqu'il a dû remonter à nouveau sur un échafaudage. Et donc c'était une vraie prouesse technique, mais également physique, ce que l'on oublie souvent, de devoir arpenter, affronter ce mur, cet immense mur d'autel qui était peint, on l'oublie ça aussi souvent, d'une fresque auparavant elle-même, une fresque de Pérugin. Donc on a décidé, chose assez extraordinaire, si nous redonnons y réfléchir, d'effacer la fresque précédente pour donner libre cours à la pensée tout à fait débridée de Michel-Ange et cette vision tout à fait titanesque de fin du monde.
Quel est le message spirituel qui se dégage de cette fresque et que Michel-Ange a voulu faire passer ?
Je crois que Michel-Ange a réussi à la fois à conjuguer une idée de message de peur, en quelque sorte, puisque à bien y regarder, on s'aperçoit que les figures représentées, celles des saints, des martyrs, sont souvent dans un profond tourment, sont en proie aux passions humaines, y compris volontiers angoissées. Et en même temps, il y a quelque chose aussi de profondément solaire avec ce Christ, qui est un Christ particulièrement jeune, qui a quelque chose qui tient plus d'Apollon, finalement, que du Christ miséricordieux tel qu'on pouvait le représenter. Il suffit aussi de regarder la Vierge, sa mère, qui se tient à côté de lui, qui est comme cachée derrière cette athlète des temps nouveaux. C'est donc un message à la fois d'inquiétude, je crois, mais de profonde croyance en des temps meilleurs. C'est une vraie réflexion, je crois, sur les temps anciens, mais aussi sur une ouverture vers les temps nouveaux.
Voter pour décider du futur pape devant un tel message, est-ce que cela peut avoir une quelconque influence sur le choix des cardinaux ?
Que ça peut influencer. En tout cas, une chose est certaine, ça rappelle à la foi et à la foi première. On raconte notamment que certains cardinaux devenus papes furent élus alors qu'ils siégeaient sous la remise des clés à Saint-Pierre du Pérugin et qu'on décida donc de procéder à un tirage au sort désormais des sièges. C'est donc dire qu'il y a peut-être, on veut le croire en tout cas, une forme de mythologie ou de symbolique très forte dans cette chapelle qui, je crois, cristallise de nombreux fantasmes, de nombreux mystères, mais ce qui est aussi certainement le propre de toute foi.
Un entretien réalisé par Manuela Affigi. Les cardinaux vont donc, dans les prochains jours, désigner un 266e pape, un successeur à Benoît XVI qui a annoncé sa renonciation il y a un mois. Une très lourde responsabilité. Le cardinal français Paul Poupart en mesure bien toute l'ampleur. Il était en 2005 président du Conseil pontifical de la culture et du dialogue interreligieux lors de l'élection de Benoît XVI. Témoignage.
Pour le précédent conclave, j'étais donc dans la chapelle Sixtine et donc cela veut dire que dans les congrégations générales, j'étais légitimement préoccupé en écoutant les uns et les autres de discerner de façon très personnelle. Donc j'étais plus directement impliqué, donc je dirais, par ce choix qui, pour un cardinal, est une chose unique dans l'existence. C'est quelque chose... Vous évoquez la chapelle Sixtine, je me revois... quand vous allez déposer votre bulletin et que, en levant les yeux, vous faites le serment devant le Christ du jugement dernier impressionnant de Michel-Ange, que vous choisissez celui pour lequel, en votre âme et conscience, vous pensez que c'est Dieu qui le retient pour guider l'Église en ce moment. Parce que c'est pas les cardinaux qui font le pape. Les cardinaux sont le canal, j'allais dire, humain. Il faut bien qu'il y ait une médiation. J'étais donc l'une des 115 gouttes d'eau, la même chose cette fois-ci, qui remplissait le canal.
Ce n'est plus une goutte d'eau, là, lorsque l'on n'est que 115. On sent tout le poids, là, de la responsabilité.
Bien sûr, on sent tout le poids de la responsabilité. On s'y est préparé, bien sûr, dans la réflexion et dans la prière et dans les échanges avec les confrères.
Le cardinal français Paul Poupart. Sur les 5 continents, plus d'un milliard de catholiques veillent et prient pour les cardinaux qui sont entrés en conclave. Les fidèles interrogés le disent volontiers, le futur pape devra être un pasteur selon le cœur de Dieu, un homme solide et profondément enraciné dans le Christ. Seules ses caractéristiques fondamentales lui permettront de relever les nombreux défis qui l'attendent. Des défis qui ne sont pas les mêmes selon les continents, selon les situations géopolitiques ou les contextes socio-culturels dans lesquels le catholicisme sincère. Quelles sont les attentes en Irak? Nous avons posé la question au nouveau patriarche de l'Église chaldéenne, sa béatitude Louis-Raphaël Sacco, qui a célébré mercredi dernier sa messe d'intronisation au siège patriarcal de Bagdad.
Il y a une attente des évêques, mais aussi des fidèles qui prient pour un pape qui mettra l'Église bien sur ses pieds. Une église forte, prophétique, très proche des gens.
De quelle personnalité, de quel pape, selon vous, l'église a-t-elle besoin aujourd'hui?
Un pape, pas, disons, qui s'enferme dans la curée romaine, mais un pape qui est proche des fidèles pour les confirmer dans la foi, donner beaucoup de sens dans leur vie, sens évangélique, et aussi un pape qui pense à tous. Il est pape pas seulement pour l'Église latine, mais il est pape pour les orientaux, il est pape pour l'Afrique, il est pape pour l'Asie, il est pape pour tout le monde, vraiment. Donc, cette universalité, on attend qu'elle ait une efficacité, pas seulement en titre, mais une efficacité. Et un pape qui peut parler bien avec les musulmans et les juifs.
Le patriarche de l'Église chaldéenne, Mgr Louis Sacco, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, comme l'ensemble des reportages, éclairages et interviews qui figurent dans ce magazine. Puis je vous rappelle que tous les soirs, à partir de 17h30, nous suivrons l'issue du scrutin et la couleur de la fumée qui s'échappe du toit de la chapelle Sixtine. En collaboration avec RCF et Radio Notre-Dame, toute la rédaction de Radio Vatican se mobilise avec des invités et des journalistes au plus près de l'événement. Reportages, interviews, témoignages et le journal de 18h en direct. Et en cas de fumée blanche, quelle que soit l'heure, nous serons en direct pour découvrir tous ensemble le nouveau pape. C'est la fin de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, merci de l'avoir suivi.